Radio Prague, les informations.
La République tchèque célèbre le 17e anniversaire de la révolution de velours. Alena Gebertova nous appellera de Lorraine, où a également été célébrée cette journée. Et puis nous terminerons avec de la photographie et le concours Tchèque Presse Photo. Ce vendredi 17 novembre est donc un jour férié en République tchèque, décrété journée de la lutte pour la liberté et la démocratie, en souvenir des manifestations étudiantes du 17 novembre 1939 sous l'occupation nazie et du 17 novembre 1989 contre le régime communiste, date qui marqua le début de la révolution de velours. Plusieurs cérémonies ont eu lieu dans la journée, dont une sur la place de la Nation, Narodny Trida, en présence du chef de l'État Václav Klaus et du Premier ministre Mirek Topolánek. Et puis je vous le disais en titre, à l'étranger aussi, cette journée du 17 novembre a été célébrée dans les cercles de Tchèques expatriés ou tchécophiles. C'était le cas en France, à Nancy, d'où notre envoyée spéciale Alena Gebertova nous a téléphoné.
Ce vendredi 17 novembre, la Maison de la Culture en Nancy a été le théâtre de l'inauguration solennelle de l'association Franco-Tchéquie, association qui se propose de développer toutes sortes d'activités, dont l'enseignement du tchèque notamment, et qui est à la fois un témoignage de l'intérêt de nombreux Français de la région pour la Tchéquie. Par ailleurs, des jumelages existent entre la ville de Domažlice et Ludre et entre la région d'Ostrava et la Lorraine. Pour compléter le panorama des liens forts qui existent entre Nancy et la Tchéquie, j'ajouterai qu'une communauté tchèque assez importante est établie dans cette ville française.
On poursuit ce journal avec de la politique et le congrès ce week-end du Parti civique démocrate qui devrait être décisif sur la suite des négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement. Des négociations qui, vous le savez, durent depuis près d'un semestre. Examiner la constitutionnalité du Parti communiste tchèque, c'est la tâche d'une nouvelle commission sénatoriale dont le président a été élu jeudi. Jaromír Štětina, indépendant élu sur une liste du Parti des Verts, était le seul candidat. Le ministre de l'Intérieur a décidé de publier sur Internet une quinzaine de kilomètres d'archives de la STB, l'ancienne police secrète tchécoslovaque. Une grande partie des documents reste encore cependant inaccessible au public. Aviation, l'armée tchèque recevra les deux nouveaux Airbus A319 avec un mois de retard en janvier prochain à cause de retards pris dans l'équipement intérieur des avions dans une usine d'Hambourg en Allemagne. Les nouveaux Airbus doivent venir remplacer les Tupolev hérités de l'ère communiste et aujourd'hui obsolètes. Photographie maintenant, les clichés qui ont remporté le concours Tchèque Presse Photo sont à découvrir depuis ce jeudi dans la mairie de la vieille ville de Prague. Jeudi soir, le maire de Prague et le président de la République ont remis les prix aux vainqueurs. L'œil de cristal, principale récompense, a été remporté par le photographe pragois de l'agence France Presse, Michal Čižek, avec un cliché pris pendant les difficiles négociations gouvernementales. On termine avec la météo, un ciel seulement partiellement dégagé, des températures maximales entre 12 et 14 degrés, prévues pour ce samedi, jour de fête des Romana en République tchèque.
Bonjour, merci d'être fidèle à Radio Prague. Aujourd'hui, émission spéciale 17 novembre à l'occasion de cette journée qui est jour férié en République tchèque puisque c'est le jour de la fête de la lutte pour la liberté et la démocratie. Deux moments importants sont commémorés, 1939 et 1989, deux dates au cours desquelles les étudiants se sont opposés au régime dictatorial en place, deux dates qui symbolisent la résistance et la défense de la démocratie. Alors pour illustrer cette date toute symbolique, nous avons choisi de vous parler d'une figure oubliée, peu connue, de la résistance, celle d'un ami des Tchèques. Louis-Eugène Fauché, né en 1874 et décédé en 1964, fut chef de la mission militaire française en Tchécoslovaquie pendant l'entre-deux-guerres. Et surtout, il s'éleva seul contre la signature des accords de Munich par les puissances occidentales qui scellaient l'annexion des Sudètes par l'Allemagne nazie. Il y a quelques mois, j'ai rencontré son fils, Václav Eugène Fauché, ancien professeur à l'Institut de langue germanique de l'Université de Nancy. Il a bien voulu évoquer le destin de son père et celui de sa famille, pris dans la tourmente du XXe siècle.
Je suis né dans le quartier de Boubenec, et mes premiers souvenirs, ce sont des souvenirs d'odeur. C'est l'odeur des roses de la Stromovka. Ça, c'est le premier souvenir, un souvenir de printemps. Le deuxième souvenir, c'est le souvenir d'une baignade forcée, toujours dans la Stromovka. La première fois que j'ai vu des canards dans la pièce d'eau, qui est asséchée aujourd'hui, j'ai voulu leur courir après. Alors je me suis lancé à leur poursuite, sans me rendre compte que l'élément aquatique ne supportait pas l'eau aussi fermement que l'élément terrestre. Je me suis retrouvé donc dans l'eau, c'était en hiver, et il gelait. Donc ma mère m'a repêché tant bien que mal et on est rentré au grand galop dans notre maison qui heureusement n'était pas très loin. J'ai gardé en mémoire le souvenir du bruit de mes pieds dans les chaussures mouillées. C'est un bruit tout à fait caractéristique. Depuis, je suis bien souvent tombé à l'eau, mais chaque fois que je rentrais et que j'entendais le bruit de mes pieds dans la chaussure pleine d'eau, je pensais à ma première baignade dans la Stromovka. Et ce qui me frappe, c'est que je n'ai aucun souvenir de couleurs de cette période. Les couleurs, je ne les ai découvertes qu'en France. Quand nous sommes arrivés en France, au printemps 1939...
Le 28 octobre 1918, la République tchécoslovaque est créée. Soutenue par les puissances occidentales et notamment la France, la nouvelle petite république indépendante est donc à l'époque un des terrains où agit la politique étrangère française. La France y installe une mission militaire chargée de former la nouvelle armée. Placée sous la direction du général Pellé, Louis-Eugène Fauché fait partie de l'équipe. Contre toute attente et tous les us de l'armée, il restera pendant 20 ans en Tchécoslovaquie, prendra la direction de la mission, s'éprendra d'une jeune femme tchèque, tout comme du pays dans lequel il perçoit intimement quelque chose que la France a perdu. Une population unanime, fière d'être maîtresse de son destin. D'après son fils, il a vécu un rêve éveillé pendant 20 ans. La France arrive comme une sorte de Père Noël avec dans sa hotte l'indépendance, la construction d'une armée. Aujourd'hui, le fils du général Eugène Fauché est président de l'Amitié franco-tchécoslovaque, une association fondée par son père après la Seconde Guerre mondiale.
Cette association est née en 1949, à partir du moment où il est apparu clairement que l'association France-Tchécoslovaquie, créée en 1945, et dont mon père a pris la présidence à son retour de déportation, se ferait la courroie de transmission du pouvoir communiste installé en février 1948. Très loyalement, mon père et ses amis sont restés dans France-Tchécoslovaquie jusqu'à la fin de 1949. Et puis à la fin de 1949, ils ont fait le bilan, ils ont vu que bon nombre de militants de France-Tchécoslovaquie approuvaient l'arrestation du général Pika, président de l'Alliance française en Tchécoslovaquie, qu'ils approuvaient l'étouffement de la présence culturelle française à Prague. Et dans ces conditions, mon père et ses amis ne voyaient aucune raison de rester à l'intérieur de France-Tchécoslovaquie, qui était devenue clairement une courroie de transmission du Parti communiste français et du Parti communiste tchécoslovaque. Ils ont donc créé leur propre association qui s'appelle l'Amitié franco-tchécoslovaque. Et les premiers numéros du bulletin sont sortis pendant le premier trimestre 1950. Alors, les buts de l'association étaient d'une part informer le public français de ce qui se faisait en Tchécoslovaquie. Et là, la tâche était immense parce que des organes de presse comme Le Monde, qui était à l'époque dirigé par Hubert Beuve-Méry, avaient tendance à sous-estimer le caractère barbare de la pratique du nouveau pouvoir, pour des raisons qui se rapprochent beaucoup de ce que Clemenceau appelait en 1917 et jusqu'en 1930, le défaitisme. Et il y a une phrase qui résume bien la position de Hubert Beuve-Méry en 1945, « L'heure slave a sonné au clocher de l'Europe ». Alors si l'heure slave a sonné au clocher de l'Europe, et si on considère qu'il est fou de lutter tout seul contre l'univers, contre le sens de l'histoire, eh bien, ce que certains appelleront l'opportunisme et ce que Hubert Beuve-Méry considérait comme la sagesse consistera à aller dans le sens requis par les représentants qualifiés des Slaves de l'Europe à l'époque. Donc, Le Monde, systématiquement, atténuait tout ce que les informations objectives en provenance d'Europe centrale et orientale pouvaient choquer le public français. Donc, une activité constante de mon père a consisté à écrire au Monde.
Des réponses à des articles qui sont à l'époque difficilement publiés, tant elles vont à l'encontre de l'aveuglement général qu'une grande partie de la société se fait de la situation derrière le rideau de fer. En 1997 est paru aux États-Unis la thèse d'un historien américain, Richard Francis Crane, intitulée « Une conscience française à Prague, Louis-Eugène Fauché et l'abandon de la Tchécoslovaquie ». Seul ouvrage à ce jour entièrement consacré au destin du général Fauché, son fils nous en dit un peu plus sur le travail.
Et il est intéressant de suivre le tracé de l'itinéraire par lequel Crane en est arrivé à fantasmer sur la figure de mon père. C'est par l'intermédiaire d'un roman. Un roman d'une Anglaise de lointaine origine allemande, Martha Gellhorn. Son roman est assez foisonnant, mais parmi les figures secondaires les plus marquantes, il y a la figure d'un général Labonne, qui est une figure un peu férique, qui tranche complètement avec les autres figures, à tel point que la journaliste, car elle était journaliste à Prague en 1939, à un moment donné, la journaliste dit « Ce général, les Français ont dû l'inventer ». Elle était incrédule devant cette figure, qu'elle considérait comme incompatible sans doute avec ce qu'elle savait des Français, incompatible sans doute aussi avec ce qu'elle imaginait d'un officier. Bref, une figure complètement invraisemblable et qui l'a fascinée. Et c'est en lisant ce roman de Martha Gellhorn que Crane s'est dit, ben voilà, ma carrière va commencer là, je vais étudier ce général dont personne ne parle. Alors certes, Labonne demandait à être décrypté. Crane doit à Martha Gellhorn d'avoir trouvé l'accès à la figure de mon père et à avoir eu l'intuition que cette figure que personne ne connaissait, ni en France, ni aux États-Unis, ni même en Tchécoslovaquie de l'époque, méritait une thèse de doctorat. Et Crane est allé encore plus loin. Vous savez que les universités américaines ont parfois des préoccupations éthiques assez prononcées. Et on demande parfois aux universitaires américains, dans la mesure où la nature de leur enseignement s'y prête, de tirer de leurs recherches scientifiques des documents d'application éthique. Et l'université de Crane est de celle-là, et elle a donc financé la publication d'un recueil consacré à l'éthique politique. Dans quelle mesure les préceptes de l'éthique sont-ils transposables à la politique? Et Crane a traité un des chapitres et a montré comment une éthique protestante peut déboucher sur des décisions et des attitudes politiques.
Les accords de Munich, signés par la France et la Grande-Bretagne avec l'Allemagne de Hitler, décident du sort de la Tchécoslovaquie. Fin septembre 1938, le général Fauché reçoit un blâme du général Gamelin parce qu'il avait demandé à être relevé de ses fonctions de chef de la mission militaire française à Prague et surtout qu'il s'était mis à la disposition du gouvernement tchécoslovaque.
Mon père est resté jusqu'au 14 décembre 1938. Comme la France avait eu l'attitude que vous savez, le gouvernement tchécoslovaque n'a rien fait pour le saluer à son départ. Toutefois, À titre personnel, le général Sirovi, le général Krejci et un détachement d'honneur sont venus à la gare Wilson pour lui rendre les honneurs. Et il y a eu là des discours assez remarquables. Et ce qui ressort de tous ces discours, c'est que les Tchécoslovaques étaient très reconnaissants à mon père de s'être épris de l'âme tchécoslovaque. Finalement, c'est de cela qu'il lui était le plus redevable. Je pense qu'il faut creuser la question de savoir pourquoi mon père s'est à ce point épris de l'âme tchécoslovaque. Et ma réponse, je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'il a trouvé la patrie dont il avait toujours rêvé. Lorsqu'il dit, lors de la cérémonie des adieux, lorsqu'il dit que la Tchécoslovaquie est devenue sa seconde patrie, ça n'est pas le fond de sa pensée. Il ne pouvait pas dire, en tant que général français portant l'uniforme, il ne pouvait pas dire « la Tchécoslovaquie est devenue ma patrie » parce qu'il se serait rendu coupable de trahison. Imaginez un petit peu les réactions de la presse munichoise. On vous l'avait bien dit que Fauché n'était pas digne de confiance. C'est pas un Français. La preuve, il a avoué lui-même que la Tchécoslovaquie était sa patrie. Donc quand il dit « c'est ma seconde patrie », c'est une précaution de langage. Il faut comprendre « c'est devenu ma patrie ». C'est le pays dans lequel j'aurais toujours voulu vivre.
La famille Fauché est revenue en France en 1939. Le général Fauché a été résistant sous l'occupation allemande. Arrêté vers la fin de la guerre, il a par miracle échappé à la déportation. À son retour de Tchécoslovaquie, avant la guerre, il a continué de diffuser le message humaniste de Masaryk, activité jusqu'à ce jour poursuivie par son fils. Cette émission spéciale 17 novembre vous a été présentée par Anna Kubishta. Merci pour votre attention et merci aussi à l'équipe de production pour la mise en onde et la préparation de cette émission.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern